Les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.
Alors, chers auditeurs, bonjour. Et voilà, nous revoilà après cette période de vacances où on ne s'est pas tellement vu. C'est vrai que ça a été une période un petit peu longue sans vous. On s'est peut-être un petit peu vu au mois de juillet, puis après on a laissé les vacanciers aller au soleil. On va faire une émission aujourd'hui à la rentrée, pour cette rentrée 2022 et 2023 après. On va faire une émission. Vous avez eu une année très riche en rebondissements, parce que vous vous rappelez qu'on a eu Jean-Pierre Luminet, on a eu Stéphane Royer, on a eu pas mal de scientifiques à la radio, du ufologue, on a fait des émissions en rebondissement de la partie science jusqu'à la partie ufologie. Et puis aujourd'hui on va accueillir quelqu'un de très particulier. C'est une ancienne scientifique. Elle a travaillé au CNRS, elle était égyptologue justement, elle a travaillé pour le CNRS et aujourd'hui on l'accueille sur la radio. Il s'agit d'Elena Danan. Alors elle va nous raconter un peu son histoire. C'est une personne qui a un parcours très particulier de la partie scientifique. Elle est partie vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, ce qui est très atypique parce que on peut effectivement partir d'une carrière et faire tout autre chose dans la vie, à ce qui en a toujours été la preuve, parce que vous avez des gens qui font quelque chose de très, qui ont une belle carrière et puis ils bifurquent, ils prennent une branche différente. C'est ce qu'elle a fait aujourd'hui et on va voir avec elle son parcours à cette jeune femme formidable. Alors Elena, bonjour.
Bonjour Patrice, merci pour votre invitation.
Alors, votre parcours, expliquez-nous un petit peu ce qui vous a amené à devenir ce que vous êtes devenu, parce que vous êtes, vous avez été professeur de français, vous avez été aussi égyptologue, vous avez travaillé pour le CNRS, vous avez une carrière qui est riche en rebondissements, parce que vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, je crois même journaliste, si mes renseignements sont bons. Donc, expliquez-nous un petit peu votre début de parcours, d'abord, avant qu'on arrive en plein dans ce que vous faites actuellement.
Eh bien, par naissance, j'ai toujours eu des dons paranormaux pour entendre les esprits, les fantômes, tout ça. C'était très perturbant quand j'étais enfant, donc j'ai un peu tout refermé et je me suis concentrée sur une vie normale et j'ai étudié, j'ai fait des études d'archéologie, je suis devenue égyptologue, j'ai passé 12 ans en Égypte pour le CNRS et grâce à cela, quelque chose que j'ai cherché, c'était j'ai pu garder les pieds sur terre, voyez. J'ai vraiment essayé toute ma vie de trouver une voie, un parcours qui me rapprocherait vraiment d'être bien terre à terre et garder ma tête froide, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suis devenue ingénieure pour le CNRS. J'ai passé 12 ans en Égypte, à Karnak, Louxor. C'était quand même extraordinaire pour la mission franco-égyptienne. Et puis, bon, vous savez, ce que l'on repousse vous revient multiplié dans le dos quand vous ne vous y attendez pas. Donc, quand j'ai fini mes études, mon contrat d'égyptologue en Égypte, j'ai redéménagé en France. Et là, j'étais dans un village, dans un parc national de Bourriane. C'était magnifique. Et là, j'ai vraiment reconnecté avec la terre, les gens. C'était quand même quelque chose qui était assez prenant. Et je me suis dit, mais tout ce que j'ai appris en Égypte à propos des données académiques des civilisations, il y a quelque chose qui manque, c'est la donnée ethnologique, c'est le folklore, les croyances anciennes du folklore des gens de la Terre. Et c'est ainsi que je me suis intéressée au druidisme. Donc j'ai voulu en savoir plus et j'ai commencé à étudier le druidisme. J'ai déménagé en Irlande, où je vis toujours maintenant, et alors là, j'ai vraiment pu connecter avec des vrais druides, et j'ai suivi un enseignement, j'ai été certifiée, et ça a été un enrichissement complet. C'est comme si j'avais bouclé la boucle. Mais alors ça, c'est l'arrière-plan de ma vie, si vous voulez, ce sont les bases. Et grâce à cette expérience et cette formation d'esprit scientifique, j'ai pu vraiment ne pas me perdre dans les méandres de ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'à l'âge de 9 ans, eh bien, un événement quand même très traumatisant m'est arrivé. J'ai été enlevée par un ovni et enfin, un vaisseau, hein, c'était clair, par des petits gris. Donc ça, c'est toute une histoire que j'ai refusée, refoulée dans ma mémoire. Et j'ai dû faire une séance d'hypnose à la fin de 2019 pour vraiment tourner la page. Je voulais vraiment en avoir le cœur net. Et là, eh bien, j'ai été surprise. Voilà.
D'accord. Alors pour nos auditeurs, il faut savoir que vous savez, il faut savoir qu'on avait accueilli, on accueillera bientôt une personne qui s'occupe de faire des régressions sous hypnose pour des faits d'abduction. Les abductions sont tout simplement des enlèvements pendant le sommeil. Alors c'est très curieux, il y a des gens qui sont réticents par rapport à ce genre de choses. C'est bon, c'est vrai, c'est aller pousser très très loin la recherche du paranormal et d'aller dans des choses que les gens n'acceptent pas encore, comme des idées qui ne sont pas encore acceptées par le grand public. Mais il faut savoir que ça existe bien. Il y a des hypnothérapeutes comme John Mack, par exemple, ou des grandes personnes qui font de l'hypnothérapie, qui ont prouvé que ce genre de cas existait. Il y avait bien des gens qui étaient enlevés pendant leur sommeil et qui subissaient effectivement des prélèvements de toutes sortes de choses. Et ça, il y a des régressions qui sont faites par des hypnothérapeutes qui sont connus mondialement pour comprendre quels sont ces phénomènes d'abduction. C'est ce qu'a subi Elena, apparemment. Ça peut être vécu comme un traumatisme, ça peut être vécu comme quelque chose, au contraire, d'enrichissant pour certaines personnes, suivant le cas psychologique. Donc voilà, je voudrais le préciser pour que personne ici ne soit choqué, parce qu'il y a des gens qui sont réticents à ce genre de choses, mais c'est un phénomène qui existe à travers le monde entier. Il y a effectivement des cas d'abduction et des cas de gens qui ne se connaissent pas entre eux, qui racontent la même histoire et qui ne se connaissent absolument pas. C'est le cas d'Elena Danan qui nous raconte son histoire aujourd'hui et qui va nous montrer et nous raconter au-delà de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle fait avec le druidisme et ce qu'elle. Je crois que vous êtes aussi chamane, non?
Oui. Ça, c'est. Je me suis mise à étudier le chamanisme ces dernières années parce que j'ai hérité par ma grand-mère maternelle de certaines formations, si on peut dire. Elle était chamane et donc j'ai voulu reprendre la tradition familiale. Et par curiosité, j'ai l'esprit très très curieux. Je veux tout explorer. Le savoir, la connaissance est une passion pour moi.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez dans le chamanisme, qu'est-ce qui vous a amené à qu'est-ce que vous faites en tant que chaman? Quels sont vos enseignements chamaniques?
Alors, les enseignements chamaniques que j'ai reçus et que j'ai développés plus tard, c'est basé sur le chamanisme nordique, scandinave. C'est une tradition de femmes qui s'appelle les Volva, qui étaient des femmes chamanes. Ma ligne familiale vient de l'île de Gotland, dans l'île Baltique. Et alors, ça se transmet de grand-mère à petite-fille, ça saute une génération. Donc, en gros, en quoi ça consiste? C'est guérir ou faire des actions à distance, telles que aller chercher des réponses à une quête. Ce sont des projections. Alors, je me mets en transe, il y a des rituels très particuliers. Enfin, je ne l'ai plus fait depuis un moment, mais il y a des rituels très particuliers, c'est assez fascinant, où par le son, on met le cerveau dans un état d'onde cérébrale gamma. Et donc, la conscience peut se projeter ou nous décidons, on choisit une cible et on la détermine bien dans notre tête. C'est un peu comme la physique quantique, hein. On se projette d'un point à un autre par la conscience et par la transe. La transe va détacher la conscience du corps et la conscience va être libre, libérée et pouvoir se projeter n'importe où. Ça peut être auprès de personnes qui ont besoin d'un soin. Ça peut être aussi explorer les royaumes de l'inconscient, de l'héritage scandinave aussi, avec tout le folklore, l'Yggdrasil, l'arbre de vie. Enfin, c'est toute c'est une grande conversation pour ça. Donc, c'est ceci que j'ai étudié et que j'ai pratiqué. Je faisais des soins à distance. Voilà, des gens m'envoyaient leurs photos et je me mettais en transe et je faisais la connexion avec eux. Je projetais ma conscience. Alors en chamanisme, la conscience, pour plus de facilité, prend la forme d'un animal qui est une construction mentale qu'on appelle un animal totem. Et sous la forme de cet animal, c'est très ancestral, hein, c'est vraiment magnifique. Sous la forme de cet animal que l'on choisit, qui résonne avec notre personnalité, avec notre âme, notre conscience, qui on est, cet animal va être le support physique, enfin, sensation physique, bien sûr, hein, puisque c'est la conscience qui se projette, pour voyager vers la personne que l'on veut soigner, par exemple. Voilà.
D'accord. Donc en fait, on se rend compte que pour ceux qui ne sont pas, qui n'acceptent pas, qui n'ont pas de connaissances dans le chamanisme, il faut savoir que les chamans sont des gens qui, par le pouvoir des esprits, par le pouvoir de la communication, je dirais, entre l'homme et entre l'homme et la nature, parce que c'est avant tout un état, je dirais, de transmission de pensée et on agit sur la matière, on agit sur les personnes par la transmission de pensée et on arrive à faire des guérisons chamaniques. Vous savez, les chamans autrefois indiens aux États-Unis, il y en avait énormément qui guérissaient par des soins particuliers qui faisaient partie des peuples indiens d'Amérique autrefois. Le chamanisme est quelque chose qui remonte à une très ancienne époque, qui est très vieux, et aujourd'hui c'est pratiqué par certaines personnes, dont Elena, vous voyez aujourd'hui, et c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de côtoyer ce genre de domaine, voilà l'explication. Alors, le druidisme aussi, pourquoi avoir été vers le druidisme, plus particulièrement pourquoi?
Eh bien, la décision, l'appel pour commencer ce chemin, ça a été quand j'ai déménagé en revenant d'Égypte dans ce village dans le Lot et où les gens travaillaient vraiment avec la biodynamique, très proche de la terre. C'était une communauté de paysans et j'ai été fascinée parce que c'est là où je me suis dit, il y a tout un panneau de connaissances qui me manquent à ma formation académique. Il y a quelque chose qui manque, c'est ça. C'est la connexion des gens à la terre, c'est les traditions familiales, c'est les traditions spirituelles d'un peuple. Et ça, on nous l'apprend pas dans la formation académique. Il faut vraiment, c'est l'expérience. Alors c'est ça où j'ai commencé à découvrir que les gens connectés à la terre travaillent la terre justement en fonction des cycles naturels des saisons. Et c'est là où j'ai découvert les solstices et les équinoxes, les mouvements de la lune, la façon de cultiver sa terre, ses légumes en fonction des cycles de la lune. Et tout ça, en remontant tout ça, c'est cette façon de pratiquer l'agriculture et même une façon de vivre, hein, ça vient, mais des temps primordiaux, c'est extrêmement ancien. Et alors, quand c'était très très ancien, les gens, il y avait une élite spirituelle qui était formée à tout ce savoir. Il y a l'astrologie, tout ça. Ces gens-là étaient les druides. Et alors, ils associaient au cycle des saisons des festivals où ils célébraient les cycles agraires, en fait. Hein, le druidisme, c'est en fait la spiritualisation de cycles agricoles, de la communication, de la connexion de l'humain à l'univers. Et c'est fascinant parce que on comprend tout, on comprend tout le reste, on comprend les civilisations, on comprend les mentalités, on comprend les décisions. C'est extrêmement intéressant. Mais alors pour étudier le druidisme, j'ai dû vraiment m'y mettre. J'ai vraiment à fond. Quand je fais quelque chose, je fais à fond. Donc spirituellement, j'ai exploré et j'ai appris au niveau de l'alchimie, des choses comme ça, se servir d'une baguette magique par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une baguette magique? C'est juste une aiguille, prolongement de la pensée. C'est incroyable. Donc voilà.
D'accord. Et justement, par rapport au druidisme, l'Irlande est un site, est une région du monde propice à ce genre de choses, puisqu'il y a des légendes. Stonehenge, par exemple, est un site mégalithique important là-bas. Alors, quand on va sur ce genre de site, comme Stonehenge, par exemple, qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qu'il y a là-bas de particulier?
Oui, alors oui, Stonehenge, c'est en Angleterre, j'y suis allée. Et en Irlande, on en a pas mal aussi. On a Newgrange, on a Tara, l'île de Tara, la colline de Tara, hill en anglais. Quand on arrive sur ces sites, on sent la vibration, l'air, la fréquence de l'air, c'est différent. C'est plus intense, on se sent plus présent. C'est assez difficile à expliquer comme ça. On se sent plus présent, plus connecté à la terre, hein, c'est ça, plus présent, connecté à la terre, au ciel, au vent, au soleil, à la pluie. Ces sites sont en fait des portails de connexion à l'univers, où les distractions du monde mondain extérieur disparaissent et on est vraiment connecté. Ce sont des portails. Quand on est des gens comme moi qui sont très sensibles aux énergies et aux phénomènes paranormaux, ah oui, alors là, à fond, on sent vraiment il y a quelque chose de puissant et même statique, presque électrique, sur ces sites.
D'accord. Et est-ce que justement les mégalithes n'ont pas... quel rôle jouent les mégalithes? Parce que les pierres levées, les mégalithes, moi je le sais parce que j'ai une compagne qui a fait des études dans ce genre de recherche sur les anciennes civilisations, me dit qu'effectivement les mégalithes sont une interconnexion avec le monde des étoiles, avec le monde, avec tout ce qui est céleste. Est-ce qu'on n'a pas justement, à travers les mégalithes, la sensation que ces anciennes civilisations avaient déjà un savoir, puisqu'ils utilisaient les cycles des saisons, ils utilisaient à travers certaines constructions mégalithiques le pouvoir de pouvoir... savoir des choses que nous ne savons pas et que nous ne savons pas utiliser aujourd'hui.
Mais tout à fait, parce que quand on se reconnecte à qui on est, à l'être que l'on est, l'humain, et par là, on se connecte à l'univers, à la Terre, on est connecté à tout. Alors, ces pierres levées avaient, d'après ce que j'ai compris, j'ai étudié, ces pierres avaient différentes fonctions. Alors, on a les pierres isolées. Alors, c'est toujours... La plupart du temps, c'est toujours sur une intersection de lignes. Vous savez, il y a le réseau Hartmann, c'est le réseau électromagnétique de la Terre, et il y a ça court comme une grille, hein, dans le sol, et même 50 cm, 1 mètre au-dessus du sol. Alors, il y a les pierres, ces pierres levées, ou menhirs, comme on les appelle en France, souvent sont à des points d'intersection, c'est-à-dire qu'il y a des intersections de courants différents, et ça va ouvrir un portail, ça va faire une connexion à la grille électromagnétique, voyez. Et quand on fait un rituel, on chante autour de ces pierres, ou on fait des rituels magiques pour ouvrir un peu le voile, comme on l'appelle en Irlande, on peut vraiment utiliser ces pierres qui sont des points d'intersection pour connecter. Alors avec le monde des esprits, avec des êtres des étoiles, avec les ancêtres qui sont liés à la terre, aussi les entités des lieux. Hein, en druidisme, les druides croient complètement qu'il y a des entités qui sont assignées à une géographie particulière. On les appelle les dieux locaux, les entités locales. Et bon, ça aussi, on peut communiquer à ces entités-là ou communiquer avec le monde des fées aussi, qui est un monde parallèle. Qui est dans une densité différente. C'est très, très intéressant. Alors, il y a ces pierres isolées. Ensuite, vous avez des cercles de pierres. Alors, ça, c'est différent. Les cercles sont en général connectés à des positions astronomiques, c'est-à-dire que certaines pierres vont être alignées avec des étoiles et ou des levées de soleil. Alors, certains cercles de pierres sont connectés à certaines. L'une ou l'autre des équinoxes, l'un ou l'autre des solstices. Et il y a un moyen de les activer. J'ai essayé ça. Le champ électrique monte quand on touche une pierre et on connecte vraiment presque en transe, hein, on fait une connexion mentale avec la pierre, on met sa main dessus, on commence à sentir une espèce de titillement dans la peau, et on passe, c'est l'électricité, c'est l'énergie vitale ou le ki, et on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre, toucher chaque pierre, et c'est comme si on activait le cercle, et ensuite c'est comme s'il y avait un portail à l'intérieur. Ces pierres sont des portes, en fait, sont des portes.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale et puis on va revenir tout de suite après. On parlera de l'abduction d'Elena et des abductions en général, qui est un phénomène qui est mal compris, mal connu, malheureusement beaucoup critiqué. On est dans un monde où le cartésien et je dirais tout ce que nous connaissons est mis en avant dans le plan de la connaissance, et tout ce que nous ne connaissons pas et tout ce que nous n'avons pas l'appréhension de pouvoir dire ben, nous allons vers quelque chose d'inconnu. Les gens ont de la réticence et le critiquent beaucoup, et c'est fortement dommage parce qu'il y a des choses à apprendre. Nous sommes tous sur cette terre pour apprendre des choses nouvelles, de savoir que nous pouvons tous évoluer en apprenant des choses que nous ne connaissons pas. C'est ce que nous allons faire dans la deuxième suite de cette émission. Parler de cette abduction et parler des abductions avec Elena. Alors après cette musique celtique irlandaise, voilà, nous revenons sur les ondes de porte de la connaissance avec aujourd'hui une invitée. Pour ceux qui nous rejoignent, après cette longue période d'été, voilà, nous accueillons aujourd'hui quelqu'un qui a travaillé au CNRS comme égyptologiste et qui est égyptologue tout simplement et qui a bifurqué vers une carrière, je dirais un peu plus spirituelle. Comme quoi tout le monde peut partir d'une carrière, je dirais, beaucoup plus cartésienne ou dans le sens où on a tous un métier sur Terre et puis bifurquer vers quelque chose de spirituel, ce qui amène à des découvertes dans la science aussi. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on arrive à faire, c'est que quand on est scientifique et qu'on va vers la spiritualité, on découvre une autre branche de la science. À travers la spiritualité, justement. Parce que la spiritualité, comme on avait fait cette émission sur le Big Bang avec vous, montrait que dans la recherche de la vérité sur la science, sur le Big Bang, on arrivait à quelque chose, à un état spirituel de l'univers. Ben là, c'est le cas. On arrive à un état spirituel de ce que Elena peut éventuellement parler aujourd'hui par rapport à son expérience de scientifique et mettre en avant des valeurs beaucoup plus belle et beaucoup plus ouverte au monde de la nature. Alors, Elena, de retour sur les ondes. Alors, on va parler dans la seconde partie, puisqu'on a parlé de votre ce que vous faites en tant que druidesse et en tant que chamane. On va parler maintenant de votre abduction. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que c'est que les abductions pour que les gens comprennent ? Parce que les gens sont assez fermés à ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ?
Eh bien, Patrice, tout d'abord, j'aimerais juste commenter sur ce que vous avez brillamment décrit au niveau de la science. Juste un mot pour dire que la conscience doit être prise en compte. La conscience est aussi de la science, fait partie de la science, la conscience. Et maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui découvrent, qui comprennent que la science de la conscience doit être réintégrée à la science officielle académique. Voilà, je voulais juste préciser cela. Alors, pour les abductions, oui, alors ça, c'est incroyable. Je ne demande pas aux gens de me croire, hein, c'est juste un témoignage personnel que j'apporte. Hein. Les abductions, il se trouve que ça se passe énormément, ça s'est passé ces dernières décennies énormément, il y a énormément de gens qui n'ont jamais osé parler, et quand on prend le courage de raconter son histoire comme je l'ai fait, ça veut dire d'accepter d'être ridiculisé, critiqué, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, hein. Mais alors, quand des gens comme moi et comme d'autres, hein, ont eu le courage de venir de l'avant et sans peur du ridicule parler de leur expérience, eh ben, ça motive les autres abductés pour parler aussi. Et là, on découvre, oh là là, qu'il y a énormément de gens hein, qui sont victimes de ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, ce sont des enlèvements, mais des enlèvements physiques. La plupart du temps, la nuit, parce que ça ne se remarque pas. Puis bon, aussi, il y a d'autres raisons, certainement. Des enlèvements à bord de vaisseaux, on va les appeler soucoupes volantes, si vous voulez, mais à bord de vaisseaux qui peuvent... Alors, après, il y a une polémique, il y a plusieurs... Bon, à partir du moment où on accepte cela, il y a deux hypothèses. Hein, ce sont soit des extraterrestres, soit des militaires qui font des programmes secrets. Donc, ça, c'est les deux théories qui pourraient expliquer ça. Moi, ce que je crois personnellement, d'après mon expérience, c'est que j'étais enlevée par des extraterrestres. J'avais des marques physiques. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, la veille au soir, il y avait deux témoins, même ma grand-mère et ma petite sœur qui était encore très jeune, qui écoute là. on a vu à la fenêtre, on habitait dans une ville hein, à Marseille, on a vu à la fenêtre un énorme vaisseau spatial, une soucoupe volante orange, c'était vraiment la soucoupe volante mais typique, avec les deux assiettes, vous voyez, l'une sur l'autre, là, qui est passée au-dessus de la maison. Mais alors ça bougeait doucement, ça brillait orange. Et ça s'est arrêté, ça faisait en grosseur, je dirais, la moitié de la lune, de la pleine lune. Voilà, c'était assez gros quand même. Après, ça a grossi quand ça s'est approché de la maison pour prendre vraiment la même taille que la Lune en grosseur. Mais bon, c'était haut. Et ça a commencé, ça s'est arrêté, ça a commencé à zigzaguer dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre. Ça a attiré l'attention. Et on était complètement mesmérisés. Hein. C'était incroyable. Et tout d'un coup, ça change de couleur. Et ma grand-mère me dit, oh, regarde, ça devient plus rouge, il va partir. Et je dis, mais comment tu sais ça? Elle m'a dit, je sais pas. Et effectivement, ça a changé de couleur. Et le truc a vraiment, c'est comme une flèche, est parti dans le ciel comme une flèche à une vitesse faramineuse. Et c'est juste a disparu comme ça, comme si on éteignait la lumière. Et ma grand-mère me dit, oh, mais c'est certainement des gens qui viennent d'une autre planète. Je dis, qu'est-ce que c'est une autre planète? J'étais petite, j'avais 9 ans. Hein. Je ne comprenais pas. Bon. Le lendemain matin, je me réveille avec des maux de ventre terribles. J'avais du sang dans le lit. Je n'avais pas ma période. Hein. J'étais trop jeune. Après, j'ai été examinée. C'était pas ça. C'était une blessure par hémorragie. Une hémorragie par blessure, pardon. Et j'avais des marques triangulaires dans mes poignets, comme des tatouages tout frais. Et un mal de crâne aussi. Donc, ils ont appelé le docteur. On m'a hospitalisée. On m'a hospitalisée 2 mois. Donc, j'ai tous les certificats médicaux. J'ai le docteur qui a marqué. À l'époque, on avait des carnets de santé. Donc, ce qui est bien, parce que j'ai pu récupérer mon carnet de santé. J'ai les preuves physiques de ça. Après, bon, ben voilà, c'est un traumatisme qui a été inexpliqué toute ma vie. Après, je n'ai jamais pu avoir d'enfant. J'ai eu des périodes très douloureuses toute ma vie. Et puis, je faisais des cauchemars où je voyais des petits aliens gris, hein, tels qu'on se les représente, avec les gros yeux noirs, et ça me terrorisait. J'avais des crises de panique horribles quand j'allais chez le dentiste. Le dentiste ne pouvait jamais me toucher. Enfin, c'était terrible. Jusqu'à ce que, eh bien, je décide de faire une séance d'hypnose il y a 3 ans. Pour vraiment en avoir le cœur net. Hein. Et alors là, tout est revenu. Le temps manquant m'a été rétribué. Alors, ce qui s'est passé, c'est que de cette nuit-là, hein, donc là, maintenant, je me base sur la séance d'hypnose. Il y a la même nuit, après avoir vu cet ovni, la même nuit, il y a un rayon bleu qui s'est matérialisé dans ma chambre et ça passait à travers en oblique, à travers le haut de la fenêtre. Et il y a trois petits aliens gris, hein, ils faisaient à peu près 1 mètre de haut, je pense. Hein, j'avais 9 ans, ils étaient légèrement plus grands que moi. Et ils m'ont sorti du lit, et ils m'ont entraîné, et je ne pouvais pas parler, ils m'ont entraîné dans le rayon bleu, je ne pouvais pas parler, j'étais muette, paralysée, les sons ne sortaient pas. Et une fois dans ce rayon bleu, j'ai été un peu comme mon corps n'arrivait pas à bouger. Les mouvements étaient très lents. J'essayais de me débattre. C'était comme se débattre dans une espèce de gel. Et puis alors on est monté et passé à travers le mur extérieur de la maison. C'était assez assez incroyable. Et on s'est retrouvé dans ce vaisseau spatial. Donc j'ai pas vraiment eu. J'étais paniquée. J'étais totalement terrorisé. Donc les détails, comment on est rentré par le vaisseau, j'ai l'impression qu'on est rentré par le bas, hein, il y avait un sas. Et tout d'un coup, je suis sur le sol froid, dans une pièce. Il fait très froid. J'ai ma petite chemise de nuit, il fait très très froid. Le sol est dur, tout est gris et sombre. Pas métallique, je ne pourrais pas dire une espèce de plastique, je ne sais pas, c'est une espèce de revêtement. Tout était comme moulé d'un seul moule dans ce vaisseau. Ensuite, ces gris me soulèvent. C'est comme si je flottais par antigravité. Et ils m'emmènent, ils me flottent hein, vers une espèce de table métallique. Juste avant, dans le processus de me mettre sur la table métallique, ma chemise de nuit est enlevée. Et j'arrive sur cette table. C'est glacé, je sens les sensations dans mon dos. On m'attache les poignets et les chevilles. Et les poignets, alors ça fait mal, les espèces de straps, c'est relié à des tubes fins, à des espèces de machines. J'arrive à peine à distinguer. Le truc, c'est que je suis paralysée. Je ne peux pas bouger, mais je suis toute molle, voyez. Mais j'ai perdu le contrôle de mon corps. Mais par contre, je peux toujours respirer, entendre et voir. Mais je ne peux pas bouger mes pupilles. Donc tout ce que je peux voir, c'est dans mon champ périphérique de vision. Et alors là, il commence sur moi des examinations assez traumatisantes, hein. Ils me mettent quelque chose dans la tête. C'est ça, alors, la peur du dentiste venait de là, une espèce de comme un drill de dentiste, hein, une espèce d'instrument qui a percé mon crâne et ils me mettent quelque chose dans la tête. Ensuite, ils m'ont fait la même chose, voyez, dans le bas-ventre, d'où les saignements ensuite. J'étais très très traumatisée, donc voilà ce qui s'est passé. Et bon, heureusement, ça s'est bien terminé, mais enfin, j'ai été ramenée. Mais bien terminée, je ne sais pas si je peux employer cette expression, mais voilà, donc voilà ce qui m'est arrivé.
D'accord. Alors, les cas d'abduction de ce genre ont été répertoriés. Et je ne sais pas si vous avez vu les auditeurs, il y a un film qui s'appelle Intruder. Allez le voir sur Facebook. Enfin, sur Facebook, il est diffusé, mais il a été diffusé sur Internet. C'est un film qui retrace l'histoire d'une femme qui a été abductée, qui est une histoire vraie. Et le film a été fait en retraçant l'histoire de John Mack, qui était clinicien et qui était en même temps hypnothérapeute mondialement connu pour ses résultats dans la psychiatrie et l'hypnothérapie, et qui a effectivement eu des cas d'abduction de cette femme en particulier, qui s'est fait abducter et qui raconte toute son histoire dans ce film. C'est absolument extraordinaire de voir ce film, parce qu'on voit vraiment que ce ne sont pas des blablas et que ce ne sont pas des racontars. Il y a des militaires qui sont impliqués, des médecins, des scientifiques qui sont impliqués, et il y a effectivement des histoires absolument incroyables qu'il faut prendre en compte et qu'il ne faut pas mettre de côté comme étant quelque chose qui n'existe pas, mais qui est bien réel. Donc j'insiste bien sur le fait que même si vous n'y croyez pas, renseignez-vous et allez voir, vous verrez, il y a des cas absolument étonnants. Et ce ne sont pas, c'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose de vécu et qui est vécu par des tas de gens sur la Terre. Et il y a effectivement des cas d'abduction absolument extraordinaires. Alors, est-ce que vous pensez que les intentions de ces êtres exogènes sont positives ou au contraire, ils ont un but qui n'est pas forcément très très positif? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben déjà, moi je juge par les actions, hein, les motifs, les motivations, c'est une chose, mais les actions, ça explique bien, hein. La façon dont j'ai été traitée était horrible, c'était inhumain, j'étais comme du bétail, ils avaient l'air d'être très entraînés à faire ça comme dans une usine, très très vite, tac 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 tac. En étudiant le sujet, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui sont abductées. De la même manière. Et donc, il y aurait un agenda, si on peut dire, d'abduction. Mais alors, c'est toujours à but génétique. Vous voyez, c'est à but de reproduction, de prélever du matériel génétique ou alors d'utiliser certaines personnes, certaines femmes ou certains hommes pour le matériel génétique, mais aussi certaines femmes pour faire des hybrides. Voilà, il y a des témoignages. Bon, ils ne m'ont l'ont pas fait parce que j'ai été en fait sauvée à temps. Mais il y a énormément de femmes qui sont mises enceintes. Après, ils enlèvent le bébé. Elles sont abductées toute leur vie. C'est des histoires assez incroyables, je le sais. Mais il faut tenir compte. Ayant vécu une expérience moi-même, je suis très, j'ai l'esprit très ouvert à écouter ces autres témoignages. À partir du moment où ça correspond au mien, j'ai tendance à y croire, vous voyez, parce que c'est être en détresse parce qu'on a vécu ça et ne pas pouvoir en parler par peur du jugement, c'est horrible, hein. Donc l'agenda, oui, c'est d'après ce que je comprends, ce que je crois comprendre, c'est de créer une race d'hybrides. Mais à grande échelle, à grande échelle. Bon, je pense qu'il n'y a pas que ces gens, ces êtres-là. Hein. Je pense qu'il y a aussi des extraterrestres bienfaisants aussi. Hein.
De toute façon, il est dit et il est prouvé que les cas d'abduction peuvent être positifs comme peuvent être négatifs. Il y a effectivement différents cas. On accueillera bientôt une personne qui a eu ce genre de problème, qui a été abductée est un monsieur qui est espagnol et qui est abuté, qui a un triangle autour du nombril, voilà, et qui à chaque anniversaire de son abduction, un triangle qui vient se dessiner autour du nombril. C'est assez étonnant, ce qui prouve qu'il y a des marques résurgentes de phénomènes qui impliquent soit un traumatisme, et le traumatisme fait que effectivement on a effectivement des dessins qui se mettent sur le corps par rapport à une mémoire interne qui reproduit ce qu'il s'est passé en faisant des signes sur le corps. Là, c'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. On en parlera, on reviendra sur les cas d'abduction plus tard dans d'autres émissions, sans impliquer, je dirais, qui que ce soit. C'est tout simplement pour montrer qu'il y a des choses et des phénomènes qu'il faut savoir prendre en compte, et qu'il y a des phénomènes inexpliqués qui sont tout aussi intéressants que des phénomènes qui sont de type connu. Il faut savoir aller pousser le bouchon un peu loin pour aller vers de la science qui serait de la parascience. C'est-à-dire qu'on a la science aujourd'hui qui nous explique par des calculs mathématiques, par un système de physique, de théorie cartésienne, beaucoup de choses, mais dans l'inconnu, dans l'irrationnel, on arrive à trouver des choses aussi étonnantes qui peuvent expliquer beaucoup de choses d'ailleurs, parce que la science est un domaine qui rejoint l'irrationnel, comme nous l'entendons nous, quand on parle de la création de l'univers, quand on parle de quelque chose qui rejoint tout ce qui est divin. Il y a effectivement des choses qui ne sont encore mal connues et qu'il faut savoir mettre en compte pour que les gens ouvrent leur esprit à quelque chose de beaucoup plus large. Et rien n'est imposé dans cette émission. Bien entendu, vous avez tous le libre choix de croire ou de ne pas y croire. Ce qui est important, c'est le respect de chacun et de la liberté de croire ou de ne pas y croire. Mais si vous voulez vous informer, informez-vous, vous verrez qu'il y a des choses absolument étonnantes. Voilà. Donc, Elena, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Les auditeurs, je pense, ont ouvert leur esprit à quelque chose de surnaturel. Aujourd'hui, on a été dans le surnaturel. Et comme quoi, vous voyez bien que les scientifiques, on peut avoir une carrière très dans la norme, je dirais, des carrières qu'on a sur Terre, être scientifique et bifurquer vers quelque chose d'extraordinaire qui ouvre les portes à quelque chose qui va vers le spirituel, ce qui en est la preuve aujourd'hui. Merci Elena, merci beaucoup, merci infiniment, et puis à une prochaine émission. Merci.
Merci Patrice.
Alors, de retour sur les ondes d'eau de radio pour les portes de la connaissance. Alors, juste, voilà, nous avons quitté Elena. Elena nous a laissé, elle est en Irlande. Et nous revenons pour juste une, deux petites minutes pour vous faire remarquer quelque chose. Alors, les portes de la connaissance, c'est une émission scientifique. On a commencé beaucoup avec le domaine des étoiles, les scientifiques, quelques ufologues. Et on ira de temps en temps faire des balades vers des gens qui sont un peu particuliers, des gens qui ont, après une carrière normale, comme tout le monde, sont allés vers des choses un peu spirituelles. Je crois que c'est important parce qu'on a besoin d'ouverture et de comprendre certains phénomènes qui sont inexpliqués et qui nous paraissent invraisemblables, car... C'est vrai que de parler d'abduction, c'est vrai que de parler d'esprit, souvent, ça interroge. Il y a des gens qui acceptent cette idée et qui se posent des questions, et des gens qui ne l'acceptent pas. Mais il est important d'ouvrir les portes de l'univers à beaucoup de choses. Et je crois que c'est très important de dire que les gens qui s'intéressent au surnaturel font des bons évolutifs importants parce que, par exemple, dans le Big Bang, il faut savoir que si l'univers existe, c'est qu'il y a une intelligence derrière et qu'il y a forcément quelque chose de divin qui a créé l'univers et que donc tout ce qui nous entoure peut être manipulé ou peut être, on dira pas le mot manipulé parce que c'est très dérangeant, mais peut être dirigé vers quelque chose qui s'ouvre et qui ouvre les portes de l'univers à des gens qui communiquent avec des êtres qui sont des êtres exogènes ou des esprits et qui ont la capacité éventuellement de nous expliquer que dans l'univers il y a de la vie partout. Car il faut savoir que dans l'univers la vie peut être multiple, il y a forcément un univers gigantesque et s'il y a un univers gigantesque, c'est qu'il y a forcément de la vie partout dans l'univers. On ne fait pas un tableau de maître comme on dit, qui est l'univers, juste pour faire joli, il y a forcément de la vie derrière. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour refermer cette émission. Nous accueillerons bientôt un grand scientifique sur cette antenne qui est spécialisé de la recherche de la vie sur les exoplanètes et la recherche de la vie et la biologie du vivant, savoir comment la vie s'est développée sur Terre. Là, ce sera un vrai scientifique qui s'intéresse à des choses mathématiques et des choses sur des théories qui rejoignent le monde de la science que nous avons l'habitude d'avoir aujourd'hui. Et nous aurons aussi des gens qui feront des émissions un peu particulières en débordant un peu sur le domaine que nous connaissons tous bien, qui est plus cartésien et qui ira vers un monde beaucoup plus spirituel. Merci à tous et à une prochaine émission pour vendredi prochain. Merci beaucoup.
Les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.